Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Toute Moon diffusée sur Alternante. Dans cette émission, chaque mois, je reçois une personne ultramarine ou d'origine ultramarine de tout milieu pour tenter de comprendre comment ils ou elles vivent leur relation à leur terre d'origine, très souvent distante de plusieurs milliers de kilomètres. Nous avons pris nos quartiers, comme d'habitude, à l'espace Louis Delgrès, siège de l'association Mémoire de l'Outre-mer. Et pour ce troisième épisode, je reçois Madame Martine Tianet, présidente de l'association des Antillais et Guyanais de Loire-Atlantique, l'AGLA. Bonjour madame.
Bonjour tout le monde.
Nous allons commencer par le tout début et nous avons affaire à une Nantaise. Vous êtes née à Nantes et dès votre arrivée sur cette planète, la question de la couleur de peau s'est posée. Hein, parfois on n'a pas de répit. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça?
Eh bien ma foi, ça a commencé dès ma naissance parce que ma maman travaillait à la maternité de Nantes. Et elle, quand elle a commencé à avoir des petites douleurs d'accouchement, eh bien, n'a pas voulu accoucher à la maternité parce que toutes les copines allaient voir justement la petite métisse, comment elle était. Donc, elle a préféré accoucher à la maison. Et c'est comme ça que je suis née rue Paul Bellamy. Vraiment nantaise.
Local. On continue la stigmatisation dès la naissance, puis la maternelle, puis l'école primaire. Au moment de passer en sixième aussi, pareil, je vous laisse nous raconter.
Eh bien oui, parce qu'à partir de la sixième, à notre époque, parce que je suis quand même un peu âgée, il fallait passer un concours pour entrer en sixième. Et la maîtresse d'école de mon époque a appelé mes parents pour leur dire « Écoutez, c'est pas la peine qu'elle fasse des études secondaires, vaut mieux la mettre dans une école professionnelle, comme ça vous pourrez la placer facilement ». Ça a mis en rage mon père, parce que lui, il rêvait d'avoir une fille secrétaire. Ah, donc, il n'était pas très curé, mais il m'a mis dans une école privée pour que je puisse continuer mes études secondaires. Donc, je n'ai pas fait de sixième, je suis rentrée directement en cinquième, et je remercie encore mes parents d'avoir pris cette décision.
Justement, en parlant de vos parents, c'est vrai qu'on n'a pas précisé d'où ils venaient, chacun, parce que ça fait aussi partie de l'histoire.
Ça fait partie de l'histoire de notre association, parce que mon père est l'un des fondateurs de l'association des Antillais à cette époque, qui s'appelait simplement Association des Antillais. L'association, à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs militaires d'Afrique du Nord, du Sénégal, et des Antilles ont été basés à la caserne Mélinette, qui se trouve dans le centre de Nantes, en attendant leur billet de retour ou leur nouvelle affectation pour ceux qui n'avaient pas fini leur temps d'armée. Mon père a donc été à la caserne Mélinette. Comme l'administration marchait pas très bien, ça a été très long. Et puis les Antillais ont créé un orchestre. Et ils allaient faire danser les belles Nantaises dans les parcs le samedi ou le dimanche après-midi. Et puis, à partir de 48-50, il y a eu un grand bal à Nantes, qui s'appelait le bal des Antillais, qui était extrêmement couru. Et d'ailleurs, ma mère me racontait que à son époque, quand elle rencontrait les copines, « Alors, est-ce que tu as ton militaire antillais au bras ?» Parce qu'il fallait reconnaître qu'ils avaient une belle prestance. Aux grandes dames des militaires de l'Afrique du Nord et du Sénégal. Donc, inutile de vous dire qu'il y a eu quelques bagarres à la fin des bals sur les places de Nantes. Enfin, ça, ça s'est bien passé. Et parmi ces militaires et les musiciens de l'orchestre, eh bien, il y en a qui ont trouvé l'âme sœur, qui se sont mariés et qui ont fondé une famille. Mais ils avaient quand même énormément la nostalgie du pays. Donc ils se rencontraient tous les samedis soirs après la fin de la semaine pour discuter en créole, pour manger le bon boudin antillais, boire le petit punch, et puis parler de la famille qui était restée au pays. Et ça, c'était un moment extrêmement important. Personne n'y manquait. Donc, en 1946, comme ils étaient un petit groupe, ils ont créé l'Amicale des Antillais, qui a été officialisée en 1950 en association. Voilà un petit peu l'histoire, le début de l'association. Et pendant les années de 50 à 2000, mettons, eh bien, c'était plutôt une association familiale qui permettait d'aider les nouveaux venus, les encadrer. Au moment du Bimidum, l'association était là pour aussi accueillir les jeunes filles ou les jeunes hommes qui venaient ou qui avaient besoin de conseils, tout ça. Et puis, cette association a continué à faire un peu de social, du festif aussi, parce qu'on organisait des bals, des repas, enfin des sorties. Et puis, bon, ben, à la file des années, les anciens ont vieilli. Les jeunes sont arrivés, ce qui est une très bonne chose, mais ça a été un petit peu dur pour eux de s'intégrer dans l'association plus ancienne. C'est-à-dire, nos anciens avaient leurs habitudes, il ne fallait pas trop les bousculer. Donc, si bien que chacun, après, est parti de son côté pour créer une association comme Mémoire d'Outre-mer, comme Métis à Nantes, les orchestres et tout ça. Donc maintenant, nous avons plusieurs associations et nous travaillons toujours tous ensemble.
J'ai encore quelques questions sur l'association, mais on va y revenir. On va repartir un petit peu en arrière, dans l'enfance. D'ailleurs, à la période de l'enfance, qu'est-ce que vous avez comme souvenir, vous, de l'association, de ce que faisait votre père? D'ailleurs, pour préciser, votre père était donc martiniquais et votre mère était vendéenne. Mais quel souvenir avez-vous, vous, de cette époque-là, de l'association, quand vous étiez vraiment plus jeune, enfant?
Je dirais que presque bébé. Comme à ce moment-là, il n'y avait pas de garde d'enfants pour les nuits. Alors quand il y avait des balles, on nous emmenait et on nous mettait dans un coin de la salle, dans notre berceau. Hein, donc je peux vous dire qu'on a été bercé par la musique antillaise depuis notre plus jeune âge. Et puis nos parents nous protégeaient énormément parce qu'ils savaient qu'on allait être stigmatisés dans les écoles. Hein, on tournait autour de nous pour toucher nos cheveux. Même dans la rue, on marchait et les gens disaient « Oh, comme elle est mignonne !» Et puis on venait nous toucher les cheveux et tout ça. Ma grand-mère est habitant dans, je dirais pas au fin fond de la Vendée, en Vendée, où ils n'avaient pas l'occasion de voir de beaucoup métis. Donc on était quand même un peu l'attraction du coin. Aux grandes dames de ma grand-mère, c'était dur pour elle d'accepter que ses petits-enfants soient... Elle en avait d'autres, bien sûr, mais qui étaient blancs. Elle était très gentille avec nous, elle essayait de tout faire pour nous protéger. Ben, c'est pareil, nos parents ne voulaient pas qu'on se mette en avant. Ah, c'est surtout ça, elle me disait toujours, tu dois être la plus propre, la plus polie, pas parler, rester dans ton coin et tout ça. Si bien qu'à la longue, on se sentait un petit peu inférieur. Ça ne nous mettait pas en confiance. Hein. Et heureusement pour moi, enfin je parle pour moi, très tôt je savais le métier que je voulais faire, c'est-à-dire un métier de puéricultrice diplômée d'État. Donc il fallait d'abord que je sois infirmière pour pouvoir passer mon diplôme de puériculture. Et mes parents trouvaient que c'était élevé pour moi, parce que ma mère travaillait comme aide-soignante. Et puis, lorsque j'étais en secondaire, eh ben, la même histoire qu'en primaire est arrivée, puisqu'on a dit à mes parents, enfin, l'année de mon baccalauréat, c'est pas la peine qu'elle fasse l'année pour le baccalauréat, vaut mieux la mettre tout de suite comme auxiliaire de puériculture. Donc, j'étais à l'école d'auxiliaire de puériculture, qui était une école à cette époque-là assez dure, et je pouvais par contre passer librement le concours d'infirmière pour entrer à l'école d'infirmière. C'est ce que j'ai fait et je l'ai eu. J'ai été infirmière diplômée d'État et puis après j'ai pu faire mon année de puériculture. Je ne dis pas que c'était contre les parents, mais pour eux, si j'avais échoué, ça aurait été grave pour eux. Puis ils nous éloignaient un petit peu de la société antillaise, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de parler créole. Quand papa allait à ses réunions, il ne nous emmenait jamais. Alors que nous, moi en tous les cas, c'est ce que j'aurais voulu, apprendre le créole et tout ça. Et parce qu'il faut vous dire que je suis métisse, d'accord, mais je me sentais vraiment noire, hein, proche de l'Afrique. Hein, proche de l'Afrique, ne me demandez pas pourquoi. D'ailleurs, je crois que c'était parce que les enfants ne jugent pas. Hein. Alors quand je les soignais, que je sois blanche ou noire, pour eux, du moment que je faisais bien, que je les amusais, que je faisais bien les soins. Par contre, les parents, là, quand ils me voyaient, bon, il y en a qui tiquaient un petit peu. Ils n'osaient pas le dire, mais ils tiquaient. Quand ils voyaient que ça marchait bien, bon, ça allait. Mais le premier réflexe était quand même un petit réflexe, pas de recul, mais enfin bref. Je me sentais vraiment proche de la famille.
Avec un bas d'antenne, dans ce folklorique en nous, c'est ça qui belle. Disquati pareil, elle s'y divine en nous, c'est ça qui belle. Où tout le monde s'en merveille, bon voyons danser, bon voyons rimer, bon voyons connaître. Elle s'y négresse en nous, qui t'a gommé. Avec mouchoir rayon, s'il y la graisse en nous, qui t'a rimé. Avec vous la rayon, elle s'y t'apprête.
Alors vous avez dit que petit, vous étiez au bal, que vous avez grandi avec voilà, cette musique-là. Moi, ma première question, c'était de savoir... Alors, il y a eu la musique, mais à la maison, il ne fallait pas parler créole non plus. Qu'est-ce qu'il y avait de culturellement antillais? Je ne sais pas, peut-être la cuisine, quelque chose. C'était quoi, les Antilles à la maison?
Il n'y avait pas beaucoup d'Antilles, même, je ne dirais pas du tout. Parce que, bon, ma mère ne connaissait pas la cuisine antillaise. Papa, bon, il ne savait pas cuisiner, là. C'était vraiment pas du tout l'homme au foyer. Donc, non, il n'y avait pas de culture antillaise. Et au contraire, pour eux, c'était un surplus de travail et ça pouvait entraver notre carrière. Donc, on ne parlait, je vous dis, on ne parlait pas créole. Pourtant, j'avais envie. Hein. Je demandais à papa souvent, aide-moi à parler créole et tout ça. Mais non, non, non. Il y avait des cours de créole. Je me souviens, j'ai voulu m'inscrire. Papa a dit non. Je me souviens, il y avait à une année, je ne sais plus quelle année, où il y a eu la reine, la première reine de la mi-carême noire, Mademoiselle Josepho, voilà, qui a été la première reine de la mi-carême métisse. Eh bien, l'association, on avait dit qu'on habillerait les enfants, qu'on lui ferait une aide d'honneur en costume antillais. Eh bien, papa a refusé qu'on y aille. Hein, j'ai une petite sœur, il a refusé qu'on y aille. Et ça, ça m'avait blessée un petit peu, quoi, parce que... Moi, au contraire, je voulais être intégrée dans cette grande famille.
Voici la Saint-Jean, le temps d'éveiller. Un joyeux essaim, têtes éveillées. Par les champs s'en va dans notre Vendée. Marchons, joli cœur, la lune est levée.
Vous avez parlé de votre grand-mère, côté vendéen, et tout le reste de la famille en Vendée. Comment ça se passait avec les cousins, avec les tantes, les oncles? Comment ça se passait?
Alors à la campagne, c'est maman qui m'a raconté qu'on disait souvent à ma grand-mère « Tu frottes pas, c'est tes filles. Tu frottes pas, filles, tes petites feuilles. » Parce qu'on parlait en patois vendéen, comme quoi il fallait bien nous nettoyer pour enlever, pour devenir blanche, quoi. Donc vous voyez... papa était assez, je dirais pas qu'on avait peur de lui, mais enfin, il venait pas souvent, se sentait pas à l'aise. Et je me souviens qu'une fois, on est tombé en panne, en sortant de la maison, dans la campagne, le radiateur de la voiture avait fuyé, donc il fallait mettre de l'eau. Et papa a été demander de l'eau dans une ferme. Quand ils ont vu que c'était un noir, ils ont fermé la porte et il n'a pas eu son eau. Enfin, ouais, c'est des petites choses comme ça qui font que là, on ne se sent pas pareil que les autres, quoi.
Juste pour resituer un petit peu ça, c'était à quelle époque? C'était dans les années 50, 60, par là?
Ah bah dans les années 60. Ouais. 60, oui, tout à fait, dans les années 60. 60. Et puis dans la famille, bien accueillie et tout. Papa travaillait à l'EDF, maman à l'hôpital. Bon, on était pas malheureux. Donc on a pu avoir une petite maison au bord de la mer et tout ça. Bah, les autres n'avaient pas ça. Alors, un certain même petit ressentiment quand même. On le disait pas, mais il y avait un petit ressentiment. Pourquoi lui réussit, puis pas nous, quoi. Voilà, c'est ça. Mais autrement, non, aucun problème. Au contraire, entre cousins et cousines, c'était très très bien. Et ça continue à l'être.
On a parlé un petit peu de la stigmatisation en primaire, au lycée. Est-ce que à cette époque-là, vous aviez conscience d'être stigmatisé ou est-ce que vous le perceviez autrement ?
Pour moi, c'était un honneur d'être pas pareil que les autres. Je revendiquais énormément, je revendiquais ma négritude, si on peut dire, parler comme ça. Parce que je me disais, si je réussis, je gagnerai deux fois, quoi. Donc, je me suis vraiment accrochée. Puis, je vous dis, j'étais tellement proche de l'Afrique. D'ailleurs, je me suis mariée avec un Africain. Et puis, je suivais un peu ce que mon père disait, être la meilleure. Je voulais à tout prix réussir. Pourtant, je n'avais pas des notes extraordinaires, mais je travaillais. Et puis, mon père me faisait travailler beaucoup. Il était très sévère sur les études. C'est lui qui aidait aux devoirs. On avait intérêt à se tenir à carreau.
On arrive en 1963, où vous entrez à l'école de puériculture. En 68, vous entrez dans la vie active. Après, comme vous l'avez dit, vous avez réussi, vous êtes devenue infirmière. Donc, vous rentrez dans la vie active, comme vous l'avez toujours voulu. Comment se passent ces premières années en tant qu'infirmière à Nantes ? D'ailleurs, c'était où ?
Bien, j'étais à ce moment-là au pavillon de la mère et de l'enfant, qui se situait au bord de la Loire. J'ai commencé d'ailleurs au chaussée de la Madeleine, dans les vieux bâtiments. Après, on a construit le pavillon de la mère et de l'enfant sur les bords de la Loire. Donc, je l'ai ouvert avec mes autres camarades. Bon, j'aimais beaucoup mon travail. Et puis, alors, j'étais d'abord dans le service de néonatologie. Et après, je suis passée en réanimation pédiatrique, qui est un service assez dur, mais aussi qui donne énormément de satisfaction. Je suis restée jusqu'en 85 dans ce service-là. Je suis rentrée en 68 en néo et en 75 jusqu'en 85 en réanimation pédiatrique.
Et entre-temps, l'événement qui a fait basculer cette vie dans une nouvelle aventure, on va dire, on peut le dire, une rencontre. Bon, je vous laisse raconter.
Une rencontre, oui, comme vous dites, avec un étudiant en pédiatrie. C'est un Sénégalais et il avait fait toutes ses études de médecine en Russie. Comme il voulait être pédiatre, il était venu faire sa spécialisation à Rennes. Et puis, bon, Rennes étant une ville très universitaire, il y avait beaucoup de boom. Donc, nous, les filles de Nantes, eh bien, on allait les rejoindre. Là. Et c'est comme ça que ça a débuté. Eh bien, on est resté quand même sortir, et on nous, pas fiancés, mais on sortait pendant 8 ans. Parce que lui, il voulait à tout prix finir ses études avant de se marier. Et comme il n'était pas boursier, eh bien, il fallait qu'il travaille en même temps. Donc, ça prenait 2 fois plus de temps. Et comme il ne voulait pas que je l'aide et tout ça, donc ça a pris beaucoup de temps. Mais enfin, on s'est quand même mariés en 85. Et puis, le service de réanimation pédiatrique avait beaucoup évolué. C'est-à-dire que la prématurité avait fait des grands pas pour sauver ces enfants-là de plus en plus de petits poids. Hein, je me souviens que dans les premières années, on disait 2 kilos, c'était un grand prématuré. Là, on était rendu à 600 grammes. Donc, vous voyez que s'occuper d'un enfant de 600 grammes, entouré de machines, dans toute une pièce, il n'y avait plus de contact humain. Et puis moi, je sentais qu'en Afrique, il y avait du travail, je ne dirais pas plus intéressant, mais j'avais l'impression d'être plus utile en Afrique qu'à Nantes. Et puis mon mari aussi, avait, une fois ses diplômes, voulait à tout prix partir travailler dans son pays. Malheureusement, on n'a pas pu partir au Sénégal pour des raisons politiques. Ah bon, vous voulez que je vous raconte ça ? Alors, parce que c'est complètement absurde. Mon mari était le seul pédiatre néonatologiste du Sénégal, je dirais presque de l'Afrique de l'Ouest, dans les années, je dis, 80. Il a fait 5 ans d'assistant à Nantes. Et après, on s'est dit, on va partir au Sénégal. Et quand il est arrivé au Sénégal, malheureusement, le ministre de la Santé et le doyen de la faculté, qui était pédiatre, ne s'entendaient pas. Donc, le doyen de la faculté, quand il a rencontré mon mari, était ravi de pouvoir monter le premier service de néonatologie au Sénégal. Malheureusement, le ministre de la Santé a refusé et a envoyé mon mari dans un dispensaire sans électricité, sans rien. Comme il est assez têtu, lui aussi, il a pas cédé, si bien qu'il est resté 4 ans. On est resté 4 ans séparés, parce que moi, je ne pouvais pas quitter mon travail. Il fallait bien que quelqu'un travaille. Et il est resté au Sénégal en faisant les démarches et tout ça. Et à un moment donné, il y a un de ses copains qui lui a écrit en disant « Au Gabon, on cherche des intellectuels, médecins, spécialistes et tout ça. » Donc, il a envoyé son dossier et on a été pris tout de suite. Donc, on est parti au Gabon et c'est là que nous avons travaillé au centre hospitalier de Libreville en créant un service de néonatologie. Parce que, aussi curieux que ça paraisse, enfin, on n'est pas venu au Gabon avec des couveuses. Les organismes bien pensants avaient envoyé des couveuses au Gabon. Il y en avait, à la maternité, je crois qu'il y en avait 4, oui, 4 couveuses, mais qui ne marchaient pas parce que personne ne savait les faire marcher. Si bien qu'il y avait, quand je suis arrivée, il y avait une couveuse où... les souris avaient fait un petit trou dans la couveuse et puis dans le matelas et puis elle élevait ses petits, elle ne bougeait même pas quand on arrivait. Donc si bien, alors moi j'ai récupéré 3 couveuses que j'ai mis dans une pièce et j'ai commencé à former les gens et commencer à travailler. Bon, ça c'est une autre histoire parce que plutôt une histoire africaine qui a demandé beaucoup d'adaptation d'un côté comme de l'autre, hein, de ma part aussi, mais ça a donné des bons résultats, puisque quand on est parti du Gabon, on nous avait construit un grand service et on avait passé la main à une jeune pédiatre gabonaise.
Vous êtes arrivé donc là-bas au Gabon en 85. Vous êtes resté jusqu'en 2008. Comment ça s'est passé là-bas, de voir arriver une femme qui est métisse, française? Que ça s'est bien passé?
Ça s'est bien passé parce qu'on était du bon côté de la barrière. C'est-à-dire que, ministre de la Santé était souvent avec nous. Avait des bons rapports, tout le monde le savait. Ils étaient même persuadés qu'on était avec le président de la République, ce qui était complètement faux. Mais c'était très bien comme ça. On les a pas découragés. Eh bien, quand j'arrivais, j'avais le genre de réflexion. Celle-ci, elle balaie les hôpitaux en France, et puis ici, elle vient jouer aux médecins, à la spécialiste et tout ça. Et comme c'était le gouvernement gabonais qui nous avait engagés, on avait les mêmes salaires qu'une infirmière. Il n'y avait pas de péricultrice à ce moment-là. Donc j'avais le même salaire qu'une infirmière. Donc, quand j'en avais marre qu'on me fasse ce genre de réflexion, eh bien, j'avais toujours dans ma poche mon salaire français et mon salaire gabonais. Comme j'étais partie, j'avais pour mal de primes et tout ça, donc il était un petit peu gonflé. Mais je leur disais, voilà, je gagne ça en France, ici je gagne ça. Alors dites-moi quel avantage que j'ai de rester, hein? Et puis une chose curieuse aussi, c'est que quand j'étais avec mon mari, les gens préféraient que ça soit moi qui sculpte l'enfant que mon mari. Parce qu'ils me considéraient comme une blanche. Alors que je dis non, le médecin c'est mon mari, c'est pas moi. Et puis je vous dis, on restait quand même assez souvent seuls. Parce que premièrement, comme on était les seuls, c'était 365 jours sur 365 jours, nuit et jour, sauf 2 mois où on avait de vacances et qu'on venait en France, mais autrement, c'était tout le temps. Donc, dès qu'on avait un moment, c'était quand même pour se reposer puis pour se retrouver ensemble. Mais quand on était invité, j'étais toujours mal à l'aise parce que quand j'étais chez des couples noirs, j'étais trop blanche. Ils me considéraient comme une blanche. Et quand c'était chez les blancs, eh ben, ils me considéraient comme noire. Ouais. Trouver sa place, c'était un petit peu difficile. Et puis le statut aussi de femme de médecin obligeait à avoir... Enfin, obligeait, non, parce que moi, je ne le sentais pas du tout comme ça. Je voulais être comme les autres, quoi. Mais on me faisait remarquer que j'avais la place d'honneur, fallait que je m'assoie là, puis pas bouger. Alors que c'est pas du tout mon genre.
Tellement haut, tellement haut, tellement haut, tellement haut, tellement haut, tellement haut, ma tellement la main tellement pour comment. Ma tellement la, ma tellement la, ma tellement la, ni tellement la tellement pour comment.
Comme vous le disiez, vous avez en plus, vous venez en plus régulièrement en vacances à Nantes pour retrouver un petit peu l'ambiance française d'une part et puis antillaise d'autre part aussi. Est-ce que ça vous a beaucoup manqué, culture antillaise, là-bas ?
Oui, énormément. Ça, énormément. Je me souviens qu'à un moment donné, il y a eu un groupe folklorique haïtien qui est venu faire la fête au jour de l'an, donner un spectacle au jour de l'an. Et j'y suis allée, donc sans parler créole, ils avaient quand même un peu l'accent. Ah ben, j'ai pas arrêté de pleurer pendant tout le spectacle, parce que ça me remuait tellement, j'avais vraiment envie de ça. Il y avait une association d'Antillais là-bas, mais comme j'étais une femme, mon mari ne voulait pas que j'y aille, il devait connaître les Antillais. Je n'ai pas forcé. Oui. Mais j'aurais été seule, ça c'est sûr.
Et justement, parlant de créole, de parler créole, est-ce que, à un moment, est-ce que vous avez réussi à apprendre le créole, à un moment ou à un autre, ou toujours pas ?
Malheureusement, toujours pas, parce que, je vous dis, notre métier nous prenait à 100%. Je ne fréquentais pas les Antillais. Et quand je suis revenue à la mort de mon mari en France, en 2008, eh bien, j'ai tout de suite intégré l'association que je n'avais jamais quittée, hein, parce que à chaque fois que je venais les deux mois, je participais au sein, je payais mes cotisations. Oui, j'ai jamais quitté l'association, si bien que lorsque je suis revenue en 2008, il n'y avait pas de personne qui donnait des cours de créole. Et ça, ça me manquait. Bon, j'allais en Martinique, bien sûr, mais j'avais honte. Si vous voulez, de ne pas savoir parler créole, donc je préférais parler français. Parce qu'on nous le fait sentir beaucoup.
1958, le général de Gaulle décide l'organisation d'un référendum pour l'adoption de la Constitution de la Ve République. Pour l'outre-mer d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, il faut choisir. Rester dans la communauté française ou accéder immédiatement à l'indépendance.
Alors, si la Martinique de papa a vécu, il faut bien avoir assez d'imagination pour essayer de concevoir une Martinique nouvelle. Je ne suis pas du tout pessimiste, mais je dis simplement que nous sommes à un tournant et il faut savoir prendre ce tournant. Tout le problème est de savoir comment on va le prendre. Si on va le prendre avec les yeux braqués sur le passé ou braqués sur l'avenir.
La réponse d'Aimé Césaire est attendue en France, dans tout l'outre-mer et dans l'archipel Caraïbe, chasse gardée du voisin nord-américain.
Là où est placé ce département, en plein milieu de l'océan, entre une immense Amérique, celle du Nord et celle des Latins, et une grande Europe, la Martinique est un témoin, un lien, un point d'où la France doit rayonner précisément sur l'ensemble de cet océan dont je parle. C'est un exemple à donner ici, et à partir de cet exemple, c'est une influence à exercer à partir d'ici, et ce sera une de vos tâches.
On va faire un petit retour dans le temps. En 1963, Michel Debré, qui crée donc le Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer, plus connu sous le nom de Pumidom, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc parmi ses missions, il y a l'information de futurs migrants. Ouais, c'est marrant de voir que le terme de migrant a été adapté aux Antillais. La formation professionnelle, le regroupement familial et l'AGLA aidaient justement les nouveaux arrivants originaires des départements d'outre-mer. Vous travaillez déjà à cette époque vous étiez dans l'association déjà à cette époque?
Oui, complètement. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période. Parce que je vous dis, mes parents ne nous emmenaient pas aux réunions qu'ils faisaient et tout ça. Nous mettait pas du tout au courant, si bien qu'on est un petit peu ignorante de ce qui se passait à l'association. Je regrette un peu maintenant parce que ça aurait été intéressant pour nos archives de voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je sais qu'il y a des familles qui ont eu leurs enfants qui sont venus, des cousins, cousines qui sont venus par le Bémidome à Nantes.
Et donc, l'aide que l'association leur apportait, ça se matérialisait comment, si vous avez quelques souvenirs quand même?
Premièrement, ça accueillir complètement dans les familles. S'il n'y avait pas, elles allaient dans des internats. Le week-end, elles venaient dans les familles antillaises. Donc, elles avaient quand même un lien avec les Antilles.
Vous revenez en 2008, donc dans l'association, évidemment. Une association que vous n'avez pas lâchée malgré la distance, hein, comme vous l'avez dit. Depuis, l'association a varié ses activités. Dans quel état d'esprit vous étiez en revenant en 2008, après ça faisait plus d'une vingtaine d'années passées en Afrique? Dans quel état d'esprit vous étiez? Et puis, qu'est-ce que vous vouliez pour cette association? Un nouvel élan ou autre chose?
Alors, il faut vous dire que quand j'avais à peu près 18 ans et 20 ans, là, 25 ans, il y avait une Martiniquaise aussi, qui s'appelait Martine aussi. Et on était toutes les deux très engagées dans l'association. C'est-à-dire que très souvent, elle était la secrétaire et moi, la trésorière. Et on changeait l'année d'après. Et puis, on se disait, quand les vieux sont plus là, on prendra la place. Malheureusement, mon ami est décédé il y a déjà pas mal d'années. Et quand je suis revenue en 2008, mon père était toujours là. Donc, je ne pouvais pas prendre de responsabilité dans l'association. Si bien, malheureusement, il est décédé en 2012. Alors, de 2008 à 2012, le président de cette époque me disait souvent, va falloir que tu prennes la relève, va falloir que tu prennes la relève. Et je dis, on verra ça, on verra ça. Alors, M. Blandy, Victor, qui est resté très longtemps à l'association et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, il a vraiment fait évoluer et fait reconnaître l'association. Vraiment un travail formidable qu'il a fait. C'est grâce d'ailleurs à son travail qu'on a pu faire notre nouvelle exposition et tout. Donc malheureusement mon père est décédé en 2012 et c'était une année élective. Donc j'ai vu comme un signe et je me suis présentée. J'étais toute seule alors il n'y avait pas grand risque. Mais enfin, je chantais que les gens attendaient, et puis donc voilà. Donc j'ai pris la tête de l'association avec envie de la faire évoluer, mais plutôt dans le sens culturel. Je voulais amener même les anciens à voir des films antillais, recevoir des artistes, des écrivaines et écrivains antillais. Et puis à ce moment-là, je ne connaissais pas Mémoire d'Outre-mer. Donc, quand j'ai appris que Mémoire d'Outre-mer existait et qu'elle faisait des choses très très bien, et je me suis inscrite aussi à Mémoire d'Outre-mer, et là, on s'est dit, il faut qu'on travaille ensemble. Avec M. Cocotier, on s'est tout de suite entendu, et puis avec M. Chérizicoté aussi, on s'est très bien entendu. Et pour la commémoration des abolitions de l'esclavage et leur abolition, on a créé le collectif du 10 mai, dont ils ont certainement parlé pendant ce temps. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais ça a été quand même un grand pas. Et comme je vous disais au départ, toutes ces personnes-là sont passées par l'AGLA pour former leur association. Et maintenant, il y a un panel varié et de très bonne qualité sur Nantes pour faire vivre la culture, l'histoire antillaise. Puis je voudrais aussi me rapprocher des Africains. On est tous une même famille. Donc ça aussi, ça me tient à cœur avec les Anneaux de la Mémoire, la Côte Nomade et tout ça, qui font un travail aussi extraordinaire. Et vraiment, c'est une grande satisfaction pour la ville de Nantes. D'ailleurs, la ville de Nantes est quand même reconnue comme ville de la mémoire.
Aimé Césaire, vous êtes à la fois député de la Martinique et écrivain. Vous êtes même l'un des écrivains qui compte le plus dans les Antilles. Est-ce que vous trouvez que ces deux vocations sont conciliables?
En tout cas, je tâche de les concilier. Je considère que l'engagement est une chose tout à fait naturelle. Et pour ma part, je considère que mon activité d'écrivain prolonge mon activité d'homme politique. Encore une fois, je ne fais pas du tout de différence et je n'ai jamais accepté une sorte de coupe dichotomique de l'activité de l'homme.
Ainsi, par exemple, votre dernier recueil, Ferment, qui vient de paraître, est-ce que vous pouvez nous dire justement de quelle manière il prolonge votre activité politique?
Le titre lui-même est révélateur. Je me suis beaucoup amusé d'ailleurs à appeler ce livre Ferment, car beaucoup de gens pensent à la fermentation. Mais dans mon esprit, ce titre est symbolique. Symbolique de la condition même du noir contre laquelle je lutte de toutes mes forces et sous toutes les formes. Et les ferments, vous le savez, ce sont ces entraves de fer par lesquelles étaient rivés les noirs dans la cale des négriers. Par conséquent, ce titre est lui-même un programme, presque un programme politique.
Si elle est reconnue grâce à son travail sur la mémoire, c'est grâce à toutes ces associations qui travaillent. Est-ce que les plus jeunes s'intéressent? Est-ce qu'ils adhèrent à l'association? Quelle relation vous avez avec les plus jeunes?
Alors là, c'est très très difficile. Très très difficile parce que, si vous voulez, les parents qui ont fait un mariage métis se sont un peu éloignés de leur culture, donc leurs enfants encore moins. Et puis les autres, se mêlent pas tellement à faire promouvoir la culture, la littérature antillaise, à part la cuisine et la musique. Il n'y a pas grand-chose. Il faut reconnaître qu'on a un gros, gros travail à faire là-dessus et on ne désespère pas. À l'AGLA, on est quand même... on a beaucoup d'anciens. C'est que des retraités, on n'a pas beaucoup de jeunes. Aller dans les écoles, c'est difficile. Je vous dis, quand on fait une soirée festive, on a 300 personnes. On fait une soirée littéraire, si on a 30 personnes, 10 noirs et 20 blancs, c'est grand maximum. Donc ça nous peine tous. Hein, et on espère que ça va changer.
Vous m'avez dit, c'est difficile d'aller dans les écoles. Pourquoi c'est difficile
C'est-à-dire déjà... Rien que dans les manuels d'histoire, on ne parle pas de la vraie histoire antillaise. La jeune fille qui avait 24 ans, je crois, qui est venue en stage chez nous pour l'histoire, elle a découvert l'histoire de la Martinique. Parce qu'elle ne connaît rien sur les livres, on ne parle pas de l'esclavage, on ne parle pas de la dissidence antillaise, dont les membres de notre association faisaient partie. Donc, elle ne la connaissait pas. Et ça, c'est à la base. Donc, les professeurs ne la connaissant pas, ne peuvent pas nous appeler. Des fois, pour l'esclavage en quatrième, ils peuvent nous appeler, mais ce n'est pas tous. Et ça, c'est regrettable. Mémoire d'Outre-mer, par contre, fait des parcours historiques avec les noms des rues, certains bâtiments. Ça, c'est très bien. Mais il faudrait multiplier ça.
D'ailleurs, vous avez collaboré sur une exposition sur la dissidence, donc vous commenciez à déflorer un petit peu le sujet. Est-ce que c'est ce genre d'exposition qu'il faudrait montrer, faire voyager, et puis peut-être aller dans des écoles ou dans d'autres lieux, musées peut-être un petit peu plus publics, ou alors au château, comme il y a souvent des expositions sur l'esclavage ou sur l'histoire antillaise aussi?
Vous avez totalement raison. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On a déjà été au château, à la maison des chantiers, dans les maisons de quartier. Et les gens sont vraiment étonnés de connaître cette histoire. C'est grâce à M. Blondy, car nos anciens, malheureusement, partant tous un par un, il s'est dit, il faut que je récolte leurs témoignages de cette partie de leur vie. Et ça a été extrêmement difficile. Parce qu'il faut vous dire que ces jeunes Antillais qui avaient entre 18 et 25 ans, qui sont partis de nuit, parce que l'amiral Robert, le fameux amiral Robert, gouvernement de Vichy, les considérait comme dissidents. Et on ne sait pas combien ont été tués et combien se sont noyés en passant le canal de la Dominique pour pouvoir allier les bateaux anglais. Et comme ils n'avaient aucune connaissance de l'animent des armes, ils ont été envoyés aux États-Unis pour être formés. Et des États-Unis, ils ont été intégrés dans l'armée française. Mais à la libération, ils n'ont pas été reconnus comme résistants. Et ça, ça a été une blessure extrêmement profonde pour eux. Et d'ailleurs, ils n'en parlaient pas. Et les anciens, on a eu énormément de mal à leur faire parler. Alors, on leur a demandé d'écrire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont écrit. Et M. Blondy a fait une première exposition en mettant en valeur leurs écrits de leurs mains. Et je peux vous dire que dans la maison de quartier des Aubans, oui, il y avait des Nord-Africains qui se sont plantés devant et qui ont lu tout, tout, tout. Et il y en a beaucoup. Ils avaient les larmes dans les yeux parce qu'ils m'ont dit « Mais c'est notre histoire aussi ». C'était vraiment très émouvant de les voir. Quand j'ai été élue présidente, mon premier souhait, ça a été de faire un podcast de cette histoire-là qui serait lu par les descendants de ces personnes, de ces dissidents. Et c'est ce qui s'est passé. Grâce à Pop Media et à Pascal Massiot, on a pu faire un podcast qui a reçu un très bon accueil, qui a été en Martinique, partout. Et j'ai reçu des témoignages où les gens de Martinique m'ont dit, oh, je ne savais pas que mon père s'était confié comme ça à sa petite fille et tout ça. C'était très, très émouvant. Ça a été vraiment, enfin pour moi, c'était une très grande satisfaction de voir cette mémoire revivre.
Quelle relation vous gardez avec la Martinique là actuellement? Est-ce que vous y allez souvent? Est-ce que la famille que vous côtoyez souvent, vous les avez au téléphone? Comment ça se passe?
Alors la famille antillaise, il y en a beaucoup. Une partie qui est quand même à Nantes. Donc je fréquente plus, et l'autre partie en Martinique, eh bien j'ai renoué avec la Martinique quand je suis rentrée en 2008. Là du coup je suis partie en vacances plusieurs fois et tout ça, mais les billets sont tellement chers qu'on ne peut pas y aller tous les ans. Mais autrement non, j'ai beaucoup d'attaches. D'ailleurs avant j'avais plutôt priorisé le Sénégal, parce que j'ai de la famille aussi au Sénégal, naturellement. Mais maintenant, c'est la Martinique à 100%. Oui, oui, c'est la Martinique à 100%. Et j'espère un jour pouvoir emmener l'exposition en Martinique.
Merci, Madame Tiané, pour avoir partagé votre parcours, votre témoignage, vos expériences avec tous les auditeurs, en espérant que ça en inspire plus d'un et que ça en emmène quelques-uns à frapper à la porte de l'Agla, et un petit peu de tous les âges, hein, comme ça, ce sera encore mieux. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Toute Moon. Au revoir.
Au revoir, et j'espère que ce petit entretien va vous plaire. En tous les cas, j'ai été très heureuse de le faire. Merci.
Martinique doux, yo belle, yo joli, yo tout chaud, yo tout agaçant. Ciao Kalilisa, ciao Kalilisa,
Martinique, c'est plus bel pays, Saukalilisa, Saukalilisa.
Martinique, c'est plus bel pays.
Le way you passé à dans la ria. Des yeux yo, quatre
le way you passé à dans la ria. Des yeux yo, quatre les rédifés.
Chao Kadirissa, Chao Kadirissa.
Martinique, c'est plus bel pays.
Chao Kadirissa, Chao Kadirissa.
Martinique, c'est plus bel pays.
Et puis foulard yo, et puis madras yo, c'est fille, yo ka chante l'amour.
Et puis grand obio, et puis foulard yo, c'est fille, ka chante l'amour.
Chao Kadirissa, Chao Kadirissa,
Matini, c'est plus bel pays.
Chao Kadirissa,
Martinique, c'est plus bel pays.
Chao Kadirissa, Chao Kadirissa,
Martinique, c'est plus bel pays.
Chao Kadirissa, Chao Kadirissa,
Martinique, c'est plus bel pays.
Chao Kadirissa, Chao Kadirissa, Chao Kadirissa,
Martinique, c'est plus belle.